Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Quoi qu'il arrive dans notre vie, il est au-dessus. Et notre seul espoir, c'est de le voir, d'avoir ce désir de voir Jésus dans notre vie, élevé. J'aimerais prier pour commencer ce temps. Seigneur, sans toi, nous n'avons rien. Mais en toi, nous avons la vie éternelle et abondante. Nous désirons te voir. Nous te demandons de nous parler. Aujourd'hui, par ta parole, par ton esprit, que tu te révèles à nous. Que nous puissions te voir. Tu es notre seul espoir. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Pendant la nuit et ce matin, j'ai demandé à Dieu quel message il a pour nous aujourd'hui face à cette nouvelle, face à cette perte impensable au sein de notre famille spirituelle. Et en priant et réfléchissant, il m'a fait comprendre qu'il m'avait déjà donné le passage, que le passage qui était prévu pour aujourd'hui avait effectivement un message pour nous aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement celui que j'avais prévu. C'est un passage qui était sur le planning, en fait, pour le mois de décembre, mais on a dû le reporter. Et du coup, même si nous sommes toujours dans le livre de Genèse, aujourd'hui, en fait, nous avons prévu de revenir en arrière pour voir encore un épisode dans la vie du grand-père de Jacob, Abraham. C'est un épisode qui parle de l'épreuve de la foi. C'est une histoire qui nous pose la question, effectivement, que ferions-nous face à une perte inimaginable? Si notre chemin avec Dieu nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, avons-nous confiance? Qui sera avec nous et qui nous en sortira de l'autre côté? C'est ça la question. Et du coup, c'est une parole pour nous aujourd'hui, pour cette assemblée. C'est un passage, en fait, très difficile à plusieurs égards. Et je ne prétends pas de pouvoir tout décortiquer dans 35 minutes. Mais c'est le passage que notre bon berger nous a donné pour aujourd'hui. Et du coup, je vous invite à trouver Genèse 22 dans vos Bibles. Genèse 22, on revient au moment où Abraham est appelé à sacrifier son fils Isaac. Son fils qui serait le père de Jacob. Son fils pour qui Abraham et Sarah ont tellement attendu. Au sujet de qui ils ont eu tellement d'angoisse. Enfin, ce fils est arrivé. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu fait l'impensable. Il dit qu'il va le reprendre. On va lire Genèse 22, à partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, parée au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Amen. Alors, voilà un passage difficile, pour moi en tout cas. J'ai remarqué ce matin en le relisant que l'une des raisons qu'il est difficile pour moi, c'est qu'il ne parle pas en fait des émotions d'Abraham. C'est frappant. C'est frappant que ce passage n'en dit rien. Dans les psaumes, David exprime souvent sa tristesse, et son angoisse et ses craintes même à Dieu. Pourquoi pas Abraham ici? Et puis j'ai compris que si ce n'est pas dit, c'est parce que c'est évident. N'est-ce pas l'angoisse d'Abraham est évident dans son échange avec son fils. Il est évident quand on pense à tout ce que ce fils représente pour lui. Et son soulagement est évident lorsque le bélier arrive. Et en ne pas le décrivant, la parole nous invite à l'imaginer pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous aurions ressenti à sa place? Qu'est-ce que nous aurions fait? Le bon matin, sachant ce qui m'attendait à la fin de mon voyage, aurais-je moi-même pris le chemin qu'Abraham a pris? Sachant que c'était Dieu lui-même qui m'avait donné cet ordre, est-ce que j'aurais pris ce chemin? Est-ce plus facile ou plus dur de prendre ce chemin, sachant que c'est Dieu qui a donné l'ordre? Ce passage est difficile. Et vous connaissez le chant « Béni soit ton nom » avec la ligne « Tu donnes et tu reprends ». Et c'est vrai, ce chant est basé sur une très bonne théologie, ce chant-là. Dieu donne et parfois il reprend. Mais le fait de savoir que parfois c'est Dieu qui reprend, ça ne fait pas que c'est facile. Et en fait, ça soulève plein d'autres difficultés, n'est-ce pas? Le pourquoi. Comment Dieu peut-il faire une telle chose? Comment peut-il faire? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions, parce que nous ne sommes pas Dieu. Faisons attention à ne pas chercher à expliquer aux gens ce que Dieu est en train de faire lorsque Dieu lui-même ne s'explique pas. Je pense que c'est une parole importante pour nous aujourd'hui. On n'a pas toutes les réponses. Moi, je ne les ai pas. On n'est pas là pour donner toutes les réponses. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il permet ce qu'il permet. Tout ce que je sais, c'est que quand je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera là avec moi. C'est tout ce que je sais. Pas plus. Et c'est ce qu'Abraham va trouver dans ce passage. Au moment le plus difficile, Dieu va pouvoir. Mais ce ne sera qu'après 3 jours. 3 jours où Abraham souffre sur le chemin. Où il obéit malgré sa souffrance. Cette épreuve est une épreuve d'obéissance. Oui, mais c'est plus que ça. C'est une épreuve d'allégeance, de fidélité. Abraham va-t-il s'accrocher à Dieu malgré tout ce que Dieu aurait pris à la fin de ce voyage, ou va-t-il s'accrocher à autre chose? Même une chose aussi légitime que son fils, le fils de la promesse d'ailleurs, la fils de l'alliance. Sachant ou pensant savoir ce qui les attend à la fin de leur chemin, vont-ils continuer ou pas, Abraham et Isaac? C'est ça la grande question de ce passage. Vont-ils rester avec ce Dieu qui ne s'explique pas forcément? C'est la grande question. Mais avant de creuser ça un petit peu, je pense qu'il faut parler au moins brièvement de cet ordre que Dieu a donné à Abraham, n'est-ce pas? Parce qu'à part la question de notre fidélité envers Dieu dans les épreuves, cet ordre que Dieu donne soulève des questions difficiles au sujet de Dieu lui-même. Notamment, comment peut-il demander une telle chose? Qu'Abraham sacrifie son fils, et comment Abraham peut-il accepter? Je pense qu'il faut noter au moins plusieurs choses à cet égard. Tout d'abord, n'oublions pas où nous sommes dans l'histoire de la Bible, en Genèse 22. Dieu n'a pas encore donné les 10 commandements. Et le reste de la loi de Moïse, ce sera dans le prochain livre, dans le livre d'Exode. Après la période de 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu n'a pas encore donné sa loi de façon systématique à son peuple. Plus tard, on apprendra effectivement que Dieu défend la pratique païenne de sacrifier ses enfants. Par exemple, dans Lévitique 18, 21. Mais avant que cette loi soit donnée au jour d'Abraham, ce que Dieu semble demander ici n'est pas en contradiction directe avec un commandement qu'il a déjà donné. Et si cela avait été le cas, Abraham aurait eu l'obligation de se dire « Alors, je me suis trompé. » Ce message ne peut pas être de Dieu, car Dieu ne peut pas se contredire. Et là, déjà, nous avons un principe très important par rapport aux épreuves, par rapport à ce que Dieu nous demande. Dieu ne va jamais nous demander de faire quelque chose qui contredit sa parole. J'espère que c'est évident que Dieu ne va pas te demander de sacrifier ton enfant. Mais plus que ça, Dieu ne va pas nous dire que ce n'est pas un problème de chercher l'intimité avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. On entend parler de ce genre de choses. Les gens qui me disent « L'Esprit Saint m'a dit que c'est cette fois-ci, ça va. » Non. Dieu ne va pas te dire que tu peux mentir un peu sur ton CV pour avoir un certain poste. Il ne va pas te dire que oui, les autres doivent vivre leur foi au sein de l'Église, mais toi, tu peux le faire seul. Dieu ne va jamais nous demander d'agir contre sa parole. Il faut connaître sa parole pour cette raison. Mais Abraham, il n'a pas encore la loi. Il n'avait pas encore la parole comme nous l'avons. Et on peut se dire, mais quand même, il aurait dû savoir que Dieu ne voudrait pas une telle chose en fin de compte. Un tel sacrifice. Mais encore, n'oublions pas que depuis la tour de Babel, Abraham est le premier à recevoir la révélation de qui Dieu est. Il est en train d'apprendre et il a beaucoup à apprendre. Et par cet épisode, effectivement, Abraham va apprendre que Dieu ne veut pas et qu'il ne voudrait jamais qu'on fasse littéralement un sacrifice humain. C'est le deuxième point. Que par cet épisode, Dieu éprouve la foi d'Abraham, oui, mais il apprend aussi ce qu'il ne veut pas, en fait. En donnant cet ordre, afin de le retirer en fin de compte, Dieu souligne de façon frappante qu'il n'est pas un Dieu comme les païens. Il n'est pas un Dieu de la mort, il est un Dieu de vie. Dieu ne veut pas qu'on meure. Il veut que nous vivions. Et puisque Dieu est un Dieu de vie, c'est lui qui mourra pour nous afin que nous ayons la vie. Dieu peut demander une telle chose à Abraham parce qu'en fait, il ne demande rien qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. N'est-ce pas? Vous avez sans doute constaté la similarité entre ce qu'Abraham doit faire avec son fils Isaac et ce que Dieu le Père fera lui-même avec Dieu le Fils Jésus. Lui aussi, Dieu va sacrifier son fils unique. Et lui, il va devoir aller jusqu'au bout. Le sacrifice d'Isaac est ce qu'on appelle une préfiguration. Une image que Dieu nous donne, qu'on ne comprenait pas forcément à l'époque, mais que nous pouvons comprendre en regardant en arrière. Vu de notre perspective après la croix, cette histoire est une préfiguration du sacrifice de Christ. Ce n'est pas une parallèle exacte, car le fils d'Abraham ne meurt pas finalement. Mais Abraham et Isaac, père et fils, ont quand même vécu l'horreur et la douleur face à ce sacrifice. La même chose que Dieu va vivre lui-même à la croix. La douleur que nous expérimentons en lisant cette histoire, en imaginant si c'était nous à la place d'Abraham, ça devrait nous renvoyer à la croix où le Père donne son Fils bien-aimé. Toute la douleur que nous expérimentons en pensant à nos sœurs qui ont perdu leur papa et leur mari, ça doit nous renvoyer à la croix où Dieu lui-même a perdu son Fils et le Fils a perdu le Père. Où Dieu lui-même, Jésus lui-même a crié, « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Dieu lui-même a perdu pour que nous puissions vivre. Toutes les épreuves d'Abraham, d'Isaac, toutes les épreuves dans notre vie doivent nous renvoyer au fait que c'est Dieu lui-même qui est mort pour que nous puissions vivre. Et en fait, Dieu a fait bien plus que ce qu'Abraham allait faire. Jésus a été torturé, pendu, nu, sur une croix, où on se moque de lui. Et finalement, il a pris sur lui-même le poids de tout notre péché. Vous voyez, la mort de Jésus n'est pas une mort comme les autres. Il est devenu péché pour nous. Pour que nous ne subissions pas cette horreur. Et le fait qu'il a pris notre place, ça veut dire qu'il est dans un sens comme Isaac dans ce passage, oui, mais il est aussi comme le bélier, celui qui meurt à notre place. Du coup, ce que Dieu demande à Abraham et à Isaac, en fait, finalement, c'est lui-même qui va le faire pour eux. Ils ne vont pas le faire, Abraham et Isaac. C'est Dieu lui-même qui va envoyer son fils, c'est lui qui va être le fils, afin qu'Isaac, Abraham, toi et moi, que nous ne mourions pas. Voilà alors quelques points sur ce qui peut être très difficile à comprendre dans ce passage, cet ordre extrême de la part de Dieu. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham par un ordre surprenant qui finalement sert à révéler sa vraie nature. Un Dieu qui veut la vie et non pas la mort pour son peuple. qui nous donne sa vie. C'est pour ça que nous gardons l'espoir même dans la vallée de l'ombre de la mort. Car même là, la vie de Dieu brille parce qu'il est passé par la mort pour nous. Mais pour voir cette lumière, cette vie qui brille dans les ténèbres, Dieu nous appelle à nous accrocher à lui, à le suivre malgré tout ce qui peut nous arriver et tout ce que ça peut nous coûter. Notons bien à quel point cette obéissance va être coûteuse pour Abraham. Déjà, il va perdre son fils et en plus, c'est lui qui doit le tuer. Là, franchement, on pourrait s'arrêter, ça suffirait. Nous savons qu'Abraham, il ne va pas le faire finalement, mais lui, il ne sait pas. Du coup, tout ce qu'Abraham est en train de faire au début de ce chapitre, lorsque nous l'imaginons en train de préparer ses affaires pour le voyage, lorsque nous le voyons échanger avec son fils, lorsque nous le voyons prendre le couteau entre ses mains, c'est quelqu'un qui vit une angoisse inimaginable. Qu'on ne peut pas imaginer. Une angoisse, non pas simplement de voir son enfant mourir devant ses yeux, mais de le faire mourir par ses propres mains. Et en plus, s'il peut y avoir un en plus dans une telle tragédie, ici il y en a un. Parce qu'en plus, cet enfant n'est pas juste son fils, il est le fils de la promesse de Dieu. Il est le fils de l'alliance, le fils qui a été promis. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham repose sur cet enfant. Toute la relation d'Abraham avec Dieu jusqu'à là, depuis le début, était liée à son appel de sortir de son pays et que Dieu ferait de lui une grande nation. Et le voilà, l'accomplissement de cette promesse. Genèse 2, c'est son appel. Genèse 12, c'est son appel. Toute sa relation avec Dieu, à partir de ce moment-là, a été centrée sur cette promesse. Et maintenant, Dieu lui demande de le sacrifier. Du coup, ce n'est pas juste son fils qu'il va sacrifier. C'est la promesse de Dieu. C'est la fondation sur laquelle il avait fondé sa foi presque. Qu'est-ce qui va lui rester après? Presque tout ce qu'Abraham pensait savoir semble être en doute. C'est intéressant de noter que le livre d'Hébreux, au chapitre 11, il nous dit qu'Abraham a pu amener Isaac à l'autel parce qu'il raisonnait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Hébreux, chapitre 11, verset 19, je pense. Abraham ne connaissait pas parfaitement Dieu à ce stade dans son cheminement, mais il avait assez de foi pour reconnaître que Dieu pourrait faire ce qui était nécessaire pour que la promesse s'accomplisse, même si Isaac devait mourir. Mais ce que Hébreux 11 ne dit pas, c'est que ce qui n'est pas le cas, c'est qu'Abraham ne savait pas si Dieu allait ressusciter Isaac ou pas. Il savait seulement que Dieu en était capable. Vous voyez la différence? Oui, Dieu est capable, mais il n'a pas promis de le faire. Dieu n'allait pas laisser tomber sa promesse, mais Abraham ne savait pas comment Dieu allait le faire. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Du coup, au moment où il prépare le couteau, il se prépare pour ne plus jamais revoir son fils, pour entrer dans un avenir complètement inconnu avec Dieu. Dieu pouvait ressusciter Isaac, mais cela n'était pas promis. Cette obéissance pourrait tout coûter à Abraham. Et même si Abraham avait su que Dieu allait ressusciter Isaac, cela ne voulait pas dire que le sacrifice lui-même serait facile. C'était toujours une question de tuer son fils. Un fils de 12 ans, avec un couteau, sur un autel, et puis brûler ce fils. Il n'y a rien de facile dans cette histoire. Et puis en plus, si Dieu allait ressusciter Isaac, quand? Bientôt, après la mort d'Abraham? Abraham ne savait pas. Tout ce qu'il savait était que Dieu lui avait donné un ordre et il fallait faire son choix. M'accrocher à Dieu ou à ma propre compréhension? M'accrocher à Dieu sachant qu'il est bon ou m'accrocher à ce que j'aurais voulu moi-même? C'était son choix. Et ce chapitre nous oblige à nous poser la question. Si Dieu me demande, si Dieu me demandait de tout sacrifier pour lui, tout, y compris les choses qu'il m'a déjà promises, est-ce que je serais prêt à le faire? Sommes-nous prêts à être, comme Jean-Serge nous l'a rappelé dimanche dernier et comme nous l'avons chanté ce matin, des sacrifices vivants? Des sacrifices où nous sommes dévoués complètement à Dieu, en sorte qu'il puisse tout reprendre et nous le suivrons quand même, parce que nous le connaissons et parce que nous l'aimons. Sommes-nous à ce point-là dans notre cheminement avec lui? Isaac représente la plus grande bénédiction qu'Abraham a jamais reçue. Et tout ce qu'il allait recevoir allait venir à travers ce fils. Si Dieu le reprend et ne le ressuscite pas, ou ne le ressuscite qu'après la mort d'Abraham, Abraham n'a plus rien. Rien, rien, sauf Dieu. Alors, si Dieu enlevait toutes tes bénédictions, et aussi toutes ses promesses par rapport à notre vie sur terre, est-ce que nous le suivrons? Pense à tout ce que Dieu t'a donné et tout ce que tu penses qu'il va te donner. S'il enlève tout ça, vas-tu le suivre ou pas? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si demain il enlève, où seras-tu? On peut se dire, mais c'est théorique tout ça, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis, il accomplira. Et nous le citons souvent, oui. Et c'est vrai. Mais avec de l'expérience, nous découvrons aussi que la promesse que Dieu nous fait n'est pas toujours la promesse que nous pensons avoir entendue. Comme le dit 1 Corinthiens 11, nous voyons comme dans un miroir sombre. Et du coup, il est tout à fait possible de se trouver dans une situation où nous avons l'impression que Dieu est en train de reprendre ce qu'il nous avait promis, comme Abraham avec Isaac. Que Dieu est en train de prendre des choses qu'il n'allait pas reprendre. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et à ce moment-là, même sachant que Dieu peut le ressusciter, lorsque nous lâchons ce que Dieu nous a donné, c'est toujours difficile, extrêmement difficile. À la croix, par exemple, Jésus, il savait que le Père pouvait le ressusciter, n'est-ce pas? Et dans sa nature humaine, il avait la foi qu'il allait le faire. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus a fait avant sa mort? Il a transpiré du sang. Il a crié son angoisse juste avant sa mort. Tout abandonné à Dieu, nos rêves, nos désirs, nos vies, comme nous avons chanté, oui, c'est bien de le chanter, mais ça va faire du mal d'une façon ou autre. Alors on pourrait aussi parler longuement du fait que dans ce passage, ce n'est pas juste que Dieu reprend Isaac, c'est Abraham qui doit le donner librement. Et parfois c'est comme ça dans la vie. Parfois Dieu prend quelque chose. Et parfois, il nous demande de le donner. Ce n'est pas exactement la même chose. Quand Dieu prend quelque chose, c'est difficile. Quand il nous demande de le donner librement, par obéissance, c'est encore plus difficile. Comme Abraham, parfois Dieu nous demande de prendre un pas d'obéissance, de lui donner de façon intentionnelle quelque chose que nous avons gardé pour nous-mêmes. On a posé la question en chantant, quelle est la partie que nous n'avons pas livrée totalement à Dieu? Ça peut être une relation malsaine ou un rêve qui nous empêche de suivre Dieu pleinement, un désir que nous avons. Parfois dans notre vie, Dieu le reprend et parfois il nous demande de le lui donner. Il nous demande de le sacrifier volontairement afin d'être en accord avec sa parole. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui. Sans doute, nous avons tous des domaines dans notre vie où Dieu nous appelle à obéir plus pleinement. Mais ce n'est pas tous les jours ou même tous les ans que nous trouvons face à un énorme pas de foi comme l'obéissance d'Abraham dans ce passage. C'est peut-être que quelquefois dans la vie même, mais ces moments sont charnières. Et si tu sais aujourd'hui, si tu es là et tu sais dans ton esprit que le Saint-Esprit essaie de te parler, qu'il te dit depuis un certain temps qu'il y a quelque chose à faire ou quelque chose à abandonner, et tu hésites à le faire, je t'encourage, ne te retiens plus. Je sais d'expérience que ça fait mal, mais Dieu est fidèle et ça vaudra le coup. Et si tu n'es pas là aujourd'hui à ce point, je t'encourage, prépare-toi. Parce que tôt ou tard, nous devons tous décider si nous allons nous accrocher à nos désirs et à nos rêves ou si nous allons nous accrocher à Dieu. Et à ce moment-là, le sacrifice va faire mal. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Mais de l'autre côté du sacrifice, d'une façon ou autre, il y a toujours la résurrection. De l'autre côté du sacrifice, il y a toujours la résurrection. C'est tout le principe de ce passage et de tout l'évangile. Parce que Dieu ne nous demande rien qu'il n'a pas fait lui-même. Et quand le Fils s'est donné pour toi, c'est à ce moment-là que le Père l'a élevé au plus haut des cieux. Si toi, tu dois lâcher quelque chose aujourd'hui, un désir, un projet que tu dois mettre à mort, sache que Dieu aussi est passé par la mort. Et maintenant, il est vivant. Il est prêt à te recevoir. Et il est à tes côtés. Quelle que soit notre situation, sachant que l'Éternel est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il a déjà pourvu à la croix et il est le Dieu qui pourvoit pour tout. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est peut-être difficile ou même impossible de le voir, mais il est Jéhovah Jireh. Il était pour Abraham et il est pour nous et il sera à jamais Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Proclamons-le et donnons-lui notre vie. Il nous a donné la sienne. Pourquoi pas nous donner notre vie à lui? Il est Jéhovah Jireh. Levons-nous pour chanter à ce Dieu qui est passé par la mort pour nous, pour que nous ayons la vie.